Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce commentaire oral du corrigé de l'UE4 de droit fiscal du DCG de 2020. Donc cette année, un sujet assez particulier et assez intéressant dans sa forme notamment, qui change un petit peu de d'habitude. Alors le premier dossier, donc d'abord trois dossiers, donc trois dossiers un petit peu la longueur habituelle, avec notamment donc ce premier dossier intégralement consacré donc à la TVA et qui représentait la moitié des points. Donc il fallait passer 1 heure et demie sur ce sujet de TVA. Donc là par contre c'était plutôt classique. Alors cette année la calculatrice était totalement interdite, donc on le verra. Au fil de la correction, justement, les calculs étaient simplifiés quand ça se passe comme ça. Alors, dans ce premier dossier, on est donc dans une société qui réalise plusieurs types d'activités, et notamment, on a une flotte de camionnettes frigorifiques, des espaces dédiés de stockage qui assurent la logistique, donc ça permet d'assurer la logistique quotidienne de tous les points de vente. Donc ici, la première mission, c'était la facturation des prestations de logistique et l'impact en matière de TVA. Donc tout simplement, il fallait, en reprenant donc les annexes, remplir un tableau tout à fait classique dans ce genre d'examen, avec donc la nature de l'opération, la qualification fiscale de l'opération, l'analyse fiscale avec les règles de droit et l'application au cas, et enfin, en fonction de votre analyse fiscale, si la TVA était exigible ou déductible, ou rien du tout s'il ne fallait rien remplir. Donc là, ici, pas de piège majeur dans cet exercice. Vraiment, les règles vraiment basiques à connaître obligatoirement sont demandées, à savoir les questions d'exigibilité de faits générateurs concernant les livraisons de biens, les prestations de services en France. Alors, il fallait faire attention au taux de TVA, mais les calculs étaient plutôt simplifiés. Les achats, donc concernant les ventes, on était sur l'exigibilité en termes de prestations de services et de livraison de biens. Ne pas oublier voilà l'option pour les débits éventuels. Alors, concernant le point numéro 3, concernant les prestations de services. Normalement, en temps normal, lorsqu'on parle de montant encaissé, on va parler de montant TTC. Donc le corrigé officiel prévoyait deux solutions. Soit on prenait 240 000 considérés comme TTC, ou alors on pouvait prendre 240 000 en hors-taxe. Bon, logiquement, quand vous avez un montant encaissé, ce sera toujours du TTC. Donc il faut faire ressortir le montant de TVA. Après, concernant les achats, ici, donc pas non plus de piège majeur, hein, ce sont vraiment les règles de base avec les achats en France, de matières premières, les acquisitions intracommunautaires, donc avec les règles d'exigibilité associées, les importations, donc un petit peu de notion de territorialité au niveau des achats, donc avec un achat en France, en UE et hors UE, achat de prestations de services, toujours pareil, voilà. Ensuite, alors, un petit cas particulier concernant l'allocation du véhicule de transport sur éventuellement la déductibilité de ses loyers. Donc là, c'est vraiment pareil, une règle, on va dire, de base sur la non-déductibilité, de la TVA sur les locations de véhicules de transport de personnes, donc avec le coefficient d'admission à zéro. Achat de prestations de services un assujetti. Donc, voilà, pas plus de points. A priori, vraiment aucune difficulté dans cette première question. C'est vraiment des règles de base. Dans la deuxième question, alors, argumenter l'intérêt ou non de souscrire l'option d'après les débits pour la SA Loster. Alors ici, cette question était intéressante dans le sens où il fallait prendre un petit peu de recul sur le sujet. En effet, dans cette société, on remarque qu'il y avait deux activités, une une activité de prestation de service, une activité de vente de marchandises. Et cette activité de prestation de service, si on étudie un petit peu, on se concentre un petit peu plus, représente, on va dire, une activité presque non significative, c'est vraiment à la marge, donc une activité qui n'a pas beaucoup d'impact sur le résultat, entre guillemets. De plus, on vous renseigne sur un délai de paiement relativement court de la part des clients, c'est-à-dire 15 jours. Donc, de ce fait, on peut tout à fait recommander d'opter sur l'option pour les débits, puisque finalement, bien l'inconvénient majeur qui va être d'avancer la trésorerie, si vous voulez, ici, à l'État, va être un petit peu amoindri dans le sens où les clients règlent relativement rapidement, en plus du fait que l'activité prestation de service est assez faible. Ça représente une petite partie. Donc l'impact sur la trésorerie est mineur, alors que on va dire que l'impact sur l'administratif est majeur. Donc autant se simplifier les choses et aligner toutes les activités sur le même régime de TVA. Voilà ce qu'on peut conseiller ici à la société. Dans cette deuxième mission, donc là, on analyse plutôt. Donc là, on va être plutôt sur une analyse d'une opération particulière qui va être la cession d'un local commercial. Et c'est là où c'est intéressant, puisque là, on va là pour le coup analyser un point précis de la TVA, qui est la TVA immobilière, et avec les droits d'enregistrement. Alors, dans le corrigé qui est beaucoup plus développé que normalement, on retrouve une définition complète d'un immeuble neuf et d'un immeuble qui n'est pas neuf. Donc, dans quel cas la cession va être soumise à TVA ou pas? Donc, en ce qui concerne les immeubles non neufs, techniquement, il n'y a pas de TVA, mais sur option, on peut soumettre la cession à la TVA immobilière. Donc, en fonction des choix du cédant, la cession sera soumise ou pas à TVA. Alors, dans le cas où la cession ne serait pas soumise à TVA, il va y avoir ce qu'on appelle une régularisation dite globale. Donc ça, voilà, on va traiter dans ce sujet la régularisation dite globale, puisqu'on est dans les délais de régularisation. Si la cession est soumise à TVA, tout simplement un taux de droit commun. En ce qui concerne en revanche les droits de mutation, donc quel que soit le régime de TVA choisi, il y aura des droits de mutation. Alors l'énoncé précise 5%. Dans le corrigé, à titre pédagogique, on va rappeler la règle légale en vigueur. Donc il peut y avoir un taux réduit, mais sous certaines conditions. Voilà, donc quoi qu'il se passe techniquement, il y a des droits de mutation, donc à hauteur de 5% ici. Et après, en fonction de est-ce que la cession est soumise à TVA ou pas, il y aura un reversement de TVA ou pas. D'accord? Voilà tout simplement ici. Donc on fait attention puisque c'est un cabinet d'infirmières qui récupère le local. Donc de toute façon, ils ne déduiront pas la TVA, eux, sur leur achat. Voilà pour ce dossier 1. Donc assez, voilà, j'ai envie de dire, sans difficulté majeure. Voilà un point précis avec la TVA immobilière qui, a priori, quand même, ne posait pas plus de soucis que ça, avec un rappel sur les régularisations. Voilà, donc 10 points qui étaient relativement, on va dire, faciles à avoir. D'accord? Question numéro 2. Donc, dans ce dossier numéro 2, on était, et là, ça devenait très intéressant, un petit peu plus de connaissances. Donc, on partait d'abord sur, hein, comme le dit le titre de participation et procédure de rescrit fiscal. Donc, imposition BIC, donc on va s'intéresser, si vous voulez, aux plus-values professionnelles ici. En plus, on est dans une société à l'IS, alors je viens de dire BIC, mais ce n'est pas le cas. Ici, on est dans une société à l'IS, donc on va s'intéresser donc aux plus-values de cession de titres d'une société à l'IS. Donc, c'est une règle relativement facile qui est connue. Voilà, qui tombe, enfin c'est vraiment basique. Donc, calculer et qualifier le résultat de cession de titre. Donc, on rappelle que la société est une société soumise à l'IS, puisque c'est une SA, donc de plein droit société à l'IS. On rappelle que les titres qui ouvrent droit au régime des plus ou moins-values à long terme sont les titres de participation. Hein, ça tombe bien puisque dans l'énoncé, on vous renseigne du fait que ces titres sont classés comme tels et on va regarder s'ils sont acquis depuis plus ou moins de 2 ans. Donc, en fonction de cela, eh bien, si c'est plus de 2 ans, eh bien, on aura une plus-value à long terme imposée à 0% avec une réintégration de quote-part de 12%. Donc là où c'est intéressant ici, c'est qu'on a deux sortes de titres. On a les titres de plus de 2 ans et de moins de 2 ans. Donc, en les étudiant lot par lot, on qualifie les plus-values. Donc, on calcule de date à date et on a dans un premier cas une plus-value à long terme, dans le second cas une plus-value à court terme. La plus-value à court terme qui intègre intégralement le résultat à l'IS, pas de retraitement. Donc une première question tout à fait abordable. Ensuite, on vous demande quels sont les traitements fiscaux induits par cette cession, qu'est-ce que je vais faire de ces plus-values? Eh bien tout simplement, la plus-value à court terme, comme je viens de le dire, intègre le résultat. La plus-value à long terme, elle est exonérée donc à 100%, donc déduction extra-comptable, réintégration d'une quote-part de frais charges de 12% dans le résultat. Alors, troisième question qui est intéressante, et c'est vraiment le point positif vraiment de ce sujet, c'est la réflexion qui était demandée aux apprenants. Petite encore prise de recul avec un petit conseil, qu'est-ce qu'on peut faire pour conseiller Monsieur Gérard Loster? Et c'est là où c'est intéressant, puisque en reportant la cession du deuxième lot, eh bien ce deuxième lot sera qualifié de plus-value à long terme, auquel cas il fera il va faire une économie d'impôt, d'accord, en repoussant de quelques jours, bien, au lieu d'être à court terme, son deuxième lot, sa plus-value du deuxième lot va passer à long terme. Donc une exonération à 100%, moyennant une réintégration de quote-part de frais charges de 12%. Donc la base imposable à l'IS sera réduite de 8 800 euros en faisant les calculs, ce qui est quand même intéressant. Dans la quatrième question, calculer le montant de la dépréciation sur les titres de participation de la filiale. Donc là, ici, petite question pareille sur, eh bien, quel est le traitement des dépréciations sur les titres de participation? Donc, les titres qui ont plus de 2 ans répondent à la définition des titres de participation. Donc, il y a bien une perte de valeur. On calcule le montant de la dotation aux dépréciations et on regarde qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, ici, normalement, c'est une réintégration extra-comptable de cette dotation. Cependant, on rappelle la règle qu'il y a une compensation avec les plus-values à long terme de même nature. Ici, on peut réaliser une compensation. Donc, on va, sur les 130 000 de plus-value à long terme, enlever 20 000 euros ici qui correspondent à la dépréciation des titres. Voilà. Donc, on va faire une déduction. Au lieu de faire une déduction de 130, on fera une déduction de 110 000 euros. Donc, ça, c'était pour la partie titre. Ensuite, une partie très 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 intéressante et beaucoup plus pratique qui concernait le rescrit fiscal. Alors, après avoir défini le rescrit fiscal, toujours rappeler les définitions rapidement du rescrit fiscal, eh bien, quel serait l'intérêt? L'intérêt du rescrit fiscal, c'est tout simplement, en cas de contrôle, eh bien, de se couvrir contre un éventuel redressement sur une situation de droit fiscal qui n'était pas très claire à l'origine ou une interprétation qui n'était pas forcément la bonne. On demande l'avis à l'administration et du coup, on se couvre contre un potentiel redressement fiscal sur ce point précis. Alors là où c'était intéressant, c'était que ici, ce rescrit concernait le chocolat et plus précisément la TVA sur le chocolat. Et comme on le voit dans l'annexe, la TVA sur le chocolat, c'est très compliqué. Très compliqué. Effectivement, on se perd vite entre les différents taux applicables en fonction de ce qu'on vend. Etc. Et donc ici, par rapport à cette société, c'est vrai que le cas était tout à fait opportun, puisque des ballotins un petit peu de toutes les couleurs, et avec ce texte fiscal, on savait pas trop comment imposer ce ballotin. Donc une question qui peut tout à fait arriver dans la vie de tous les jours. Donc c'était très intéressant. Donc en prenant un petit peu de recul, c'était pas très compliqué. Il fallait voir que il y avait des ballotins de chocolat et qu'en fonction de la définition de l'article des impôts, quel taux allons-nous appliquer? Donc, présentation de la situation, de la question 2.6, tout simplement présenter la société rapidement en expliquant qu'on vend des chocolats et qu'on veut vendre une nouvelle gamme de produits et qu'au regard de l'article du CGI, eh bien, on ne sait pas quel taux appliquer, tout simplement. Donc, la question qui est posée à l'administration fiscale, donc proposition de réponse que Comptalia vous propose, le taux réduit de TVA au regard de l'article, etc., peut-il s'appliquer sur la vente de produits de ballotin de chocolat au lait praliné noir de la SA Loster? Voilà, l'administration fiscale va répondre oui, vous pouvez, non, vous ne pouvez pas. Voilà, en cas de contrôle, la société est couverte. Donc ça, c'était pour le deuxième dossier, donc beaucoup plus intéressant. Alors, en termes de longueur, il était relativement court, j'ai envie de dire. Alors, le corrigé paraît long, mais en termes de, c'est relativement court quand même. Au niveau des questions, ce qui est demandé, c'est des réponses rapides. Dernier dossier, enfin. Donc là, nouveauté dans la forme, c'était une question tout simplement de cours, hein, de rédaction, avec deux thèmes au choix. Un thème relatif à l'impôt sur la fortune immobilière ou un thème relatif au prélèvement à la source, donc le recouvrement de l'impôt sur le revenu. Donc en fonction de ce que vous préfériez et ce que vous aviez maîtrisé le mieux, voilà, répondre à l'une ou l'autre. Bon, 15 20 lignes, c'était très bref. Hein, le corrigé est quand même plus long que ce qui est demandé, bien évidemment. C'est très compliqué de faire bref sur ce genre de questions. Voilà, ne pas se noyer dans les réponses pour pas noyer le correcteur, mais bon, mettre l'essentiel, voilà, deux questions qui étaient relativement voilà, abordables. Alors si on ne maîtrisait pas une, il y avait au moins la chance peut-être d'avoir le prélèvement à la source qui est beaucoup plus contemporain. Normalement, si vous suivez l'actualité, vous savez a priori de quoi ça parle, donc il y a quand même moyen d'avoir quelques points sur ces thèmes, si on ne connaît pas trop ces thèmes, si on ne les a pas trop étudiés. Donc voilà, dans l'ensemble, un sujet plutôt très intéressant cette année. Les créateurs de sujets, vraiment, notamment sur le rescrit, vraiment un sujet vraiment passionnant. Moi, j'ai trouvé ça assez très intéressant sur notamment la réflexion qui était demandée aux apprenants. C'était pas juste du traitement pour du traitement, des questions de réflexion assez intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous apprenants et non apprenants. À très bientôt, au revoir.